Bonjour, donc je vais débuter ce cinquième cours sur les matériaux poreux. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de systèmes construits sur la base de polymères de coordination. Alors, vous allez le voir, en fait, la chimie de coordination, c'est connu, c'est un terrain de jeu qui est formidable. On a vraiment l'impression de faire de l'assemblage. Peut-être encore plus que ce que je vous ai montré la dernière fois avec les Covalent Organic Framework, les COF, puisque là, ce sont des liaisons... Bon, il y a toute une modulation sur la force de la liaison par rapport à des systèmes qui jouaient uniquement sur les équilibres la dernière fois, formation de fonctions imine, borazine ou autre. Donc, en fait, d'une part, bon, la chimie de coordination, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a une grande variété de pièces rigides, des connecteurs, donc des démontables avec de la réversibilité, vous allez le voir. Mais forcément, la réversibilité, comme dans le cas du cours de la semaine dernière, il y a toujours un prix à payer dans la réversibilité. Alors, on peut imaginer donc, des polymères de coordination avec des assembleurs de ce type. Ces deux pinces de crabe représentent des fonctions complexantes. Donc, il faut un minimum d'une fonctionnalité de 2 sur l'assembleur. Et ensuite, ces assembleurs sont connectés via des connecteurs ou des croisillons, si vous préférez. Et également, pour obtenir un réseau, il faut également une fonctionnalité minimum égale à 2. Alors, si on regarde un peu l'histoire, bien qu'on ait l'impression que c'est un sujet nouveau, ce n'est pas du tout un sujet nouveau. Les polymères de coordination, ça a démarré dans les années 70 avec les travaux de Carraher. Bon, ce qui a changé finalement, c'est le but recherché. Bon, maintenant, les gens parlent de MOF, de PCP, on va en parler, parce que tout le monde est centré sur la porosité. On veut des matériaux poreux pour l'énergie, pour l'adsorption, etc. Mais les concepts ont été déjà conçus, je dirais, bien avant, au niveau conceptuel, de mon point de vue. C'était déjà bien fixé. Donc, les travaux de Carraher, vous voyez, c'était typiquement des polymères de coordination, donc des molécules qui étaient associées via des liaisons avec des complexes de palladium ou des ferrocènes. Vous voyez, ça, c'était les années 70, avec un certain nombre de travaux entre 70 et 80. Alors, il y avait également, dans les années 88... Ça, ce sont des équipes françaises, Olivier Kahn, certains de vous l'ont peut-être connu, Michel Verdaguer, qui est professeur émérite à l'UPMC, ont créé également des polymères de coordination avec des ligands oxamato, avec différents types de métaux, et ce sont des chaînes, en fait. Et là aussi, leur problématique était totalement différente. C'était des gens qui travaillaient sur le magnétisme moléculaire et qui voulaient aller, je dirais, de la molécule ou du couple de molécules au réseau. Et ça leur permettait, vous voyez, d'obtenir des réseaux pour augmenter finalement la difficulté des interactions, parce que derrière tout ça, il y avait du calcul, ils faisaient pas mal de calculs orbitalaires. Et puis c'est l'époque où le ferromagnétisme ou l'antiferromagnétisme a commencé à être expliqué sur la base purement orbitalaire, de orbital orthogonal, recouvrement par recouvrement. Quand ça se recouvre, c'est plutôt antiferro, et quand ça ne se recouvre pas, c'est plutôt ferromagnétique. Et donc, c'était déjà des polymères de coordination, comme vous voyez, mais avec un focus, un but tout à fait différent. Alors, les soi-disant premiers travaux de vrais polymères de coordination au sens cristallisé, mais non poreux, ces travaux sont dus essentiellement à Richard Robson, qui est un Australien de l'Université de Melbourne, vous voyez, qui a commencé à faire des composés de coordination, c'était le début, je dirais, de la chimie réticulaire, en prenant ce qui est peut-être le plus simple à coordonner, c'est-à-dire des ligands mous azotés avec des métaux monovalents ou divalents. Et donc, vous voyez, typiquement, un tétracyano-tétraphénylméthane, il y a 4 points de connexion. Le cuivre 1, ça se module très bien au niveau de la chimie. On connecte ça et on obtient, vous voyez, des structures. Bon, là, c'est une structure type adamantane. Et donc, ça, c'était des travaux qui ont démarré, je dirais, dans les années 85-90. Il a également, vous voyez, joué sur la fonctionnalité des connecteurs, toujours avec des métaux mous, finalement, parce que la réaction est immédiate. Quand vous avez un métal mou et un système de base molle type azote, ça se fait très bien, ça se fait à l'ambiante, et puis on obtient de magnifiques cristaux. Donc vous voyez, avec des topologies, alors à cette époque-là, pareil, les gens ne cherchaient pas du tout le trou, la porosité, c'était pas du tout le problème. C'était de faire des nouvelles structures, de comprendre un peu cette chimie. Vous voyez, donc des structures de ce type avec ce ligand qui a été réutilisé plus tard hein, pour faire des MOF, vous voyez, avec du cuivre 1. Et donc, en fait, quand on développe le réseau, on obtient deux réseaux interpénétrés l'un dans l'autre. Et typiquement, je vous ai montré des réseaux interpénétrés la dernière fois de COF. Ben bon, ce que je veux dire, c'est que, quelque part, les concepts de base étaient déjà posés. Alors, en faisant, justement, suite à un cours que j'avais fait sur les matériaux hybrides, avec Marco, et Lionel et Eduardo, on s'est dit, on va valoriser ce cours-là, on va en faire une revue, on va écrire une revue. Et au moment où j'ai commencé à réfléchir là-dessus, je me suis aperçu que finalement, ma bibliothèque n'était pas bonne. Et vous voyez, c'est un travail fait par un Japonais, Higuchi et Saito, 1959. Et 1959, avec, vous voyez, à nouveau, des bases molles, du cuivre 1, pour obtenir, vous voyez, les premiers, je dirais, Metal Organic Framework. Mais à l'époque, à nouveau, ces gens-là ne cherchaient pas la porosité. D'accord ? Alors, au niveau, donc, maintenant, des MOF et des associés, en fait, je dirais qu'il y a ce qui a lancé, finalement, ces polymères poreux cristallins, c'est, en fait, un ensemble de travaux par ces trois personnes, Omar Yagi, Gérard Ferré, qui est décédé, et Suzumu Kitagawa, qui, tout à l'heure, a reçu le Grand Prix de la Maison de la Chimie, au passage. Et donc, chacun a travaillé, finalement, avec des concepts, vous voyez, dans le cadre de Suzumu Kitagawa, c'était des ligands mixtes, je dirais azote-carboxylate, qu'il a appelé Porous Coordination Polymers. Omar Yagi a travaillé beaucoup avec des systèmes à base de zinc et les carboxylates, des systèmes qui se font, je dirais, assez bien dans l'ensemble. Il appelait ça Metal Organic Framework. Et Gérard Ferré a travaillé avec des trivalents, aluminium, chrome, des métaux juste un petit peu enfin, plus durs, avec des carboxylates, et il appelait ça des MIL, matériaux de l'Institut Lavoisier. Alors, à nouveau, du côté des MOF, en fait, il y a une personne qu'il ne faut pas oublier, c'est ce cristallographe, la chimie réticulaire. Le cristallographe, c'est lui. Hein, et c'est lui qui a amené énormément de concepts dans la construction, un petit peu la Lego-chimie, en fait, des MOF. Alors, bien entendu, aujourd'hui, eh ben, les MOF, ce n'est pas trois personnes, ce sont plus de 10 000 articles par an. Je dirais facilement plusieurs milliers, dizaines de milliers de nouvelles structures. Et donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de personnes. Je n'ai pas mis tout le monde, mais j'en ai mis un bon nombre qui sont très souvent cités dans la littérature. Bon, en France, bien entendu, aux États-Unis, bon, je ne vais pas faire la liste des noms. Il y a pas mal d'implications de Japonais, de Chinois également, la plupart ayant un laboratoire en Chine, un laboratoire aux États-Unis. Des Anglais, des Allemands, et donc tous ces gens-là contribuent depuis, en gros, les années 90 à l'histoire des MOF, qui est toujours en train de se construire. Hein, elle s'améliore de jour en jour. Alors maintenant, si je reviens sur la notion de polymère de coordination cristallisée, je vous ai dit, bon, je reprends le dessin de l'autre fois. En fait, ce sont des édifices construits à partir de montants hauts de croisillon, hein. Et ces montants et croisillons, eh bien, vous allez voir que les propriétés ne sont pas exactement les mêmes que ceux que je vous ai décrits la dernière fois. Et tout montage, pour aller vers une cristallisation, il faut avoir des possibilités de correction, je vous ai dit. Et ça veut dire possibilité de correction de l'édifice. Ça veut dire, d'une part, que quand on construit ça, ben, on ne soude pas les croisillons, parce qu'après, c'est difficile. Et on donne de la réversibilité au système. Alors, comment fait-on, d'une façon très générale, pour obtenir des polymères de coordination ? On part de métaux avec leur ligande. Je rajoute un ligand au minimum bifonctionnel. Et on chauffe. Et donc, ce qui se passe là, c'est que vous avez une compétition entre les liaisons d'association via la complexation et les réactions d'hydrolyse-condensation de ces systèmes-là, qui, pour la plupart, ne demandent qu'à commencer à s'hydrolyser, à condenser. Et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué que les COF. D'accord ? Donc, en fait, avec des cations mécaniques ou clusters qui servent de croisillons et les assembleurs organiques. Eh bien, ce sont les assembleurs organiques, je vais vous en décrire quelques-uns, mais que l'on a vu déjà dans les cours précédents. Alors voilà, les montants assembleurs organiques. Je dirais, la chimie de coordination, ben, il y a les ligands L, simplement donneur, tous les ligands azotés, quelque part. Donc ça, il y a une très très bonne dynamique, ça se fait relativement facilement. Et puis les ligands qu'on appelle ligands X, hein, qui sont en fait les ligands en fait, qui se déprotonnent à un moment pour créer des carboxylates et se fixer avec une liaison qui est différente de la liaison azote-métal. Et les azolates, mais les azolates font partie de la famille, j'irais, des ligands L. On a également quelques travaux avec des ligands mixtes, bien entendu. Alors, au niveau des clusters de métaux, il y en a un grand nombre qui a été répertorié. Vous voyez, des métaux cuivre, zinc, beaucoup de travaux sur le zinc au début, peut-être parce que c'est une chimie qui est plus facile, plus accessible au niveau de la chimie, je dirais, sol-gel, hydrolyse-condensation. Mais bon, il y a une quantité absolument énorme de connecteurs qui sont, vous voyez, pour un grand nombre d'entre eux, lorsqu'on reste sur des métaux mous, sont des systèmes qui ne sont pas trop condensés. Quelque part, c'est peut-être plus simple à manipuler. On a des systèmes qui sont carrément atomiques, en fait. Un seul métal, des dimères, des trimères, donc c'est relativement plus facile. Alors évidemment, on peut travailler finalement la synthèse de ces matériaux de telle façon à obtenir des fonctions supplémentaires. Bon, un exemple simple, bon, j'ai ma source de métal, j'ai mon ligand, je les connecte, bon, c'est vraiment du cartoon, hein, et je peux ensuite, par exemple, rajouter sur cette fonction-là un greffage covalent, ou bien ben, je pars d'un greffage covalent ou une modification par coordination que je couple avec un greffage covalent ou une réaction de chimie clique, comme on en a vu un grand nombre dans les exposés précédents. Alors, le ligand, par exemple, je dirais un ligand assez utilisé, assez simple, vous voyez, ça peut être un dicarboxylate avec une fonction amine ici, ou une fonction cliquable. Bon, l'amine, je peux la transformer, etc. Donc, pour tout chimiste, on voit tout de suite, en regardant ce schéma simplifié, les nombreuses possibilités qu'offrent finalement les MOF et leur fonctionnalisation. Juste pour préciser un petit peu les choses, on fait un MOF avec une fonction amine, je ne parle pas des métaux. Ensuite, dans des conditions douces, on le transforme en N3. Et ensuite, on fait une réaction clique en présence de cuivre pour obtenir une fonction supplémentaire. Et ça, c'est un exemple qui vous fixe un peu les idées, mais c'est quelque chose qui est assez classique pour le chimiste organicien. Alors, au niveau des propriétés qui sont étudiées avec les MOF, eh bien, ce sont essentiellement, vous voyez, les mêmes propriétés que l'on retrouve d'une façon générale avec tous les matériaux pour eux, c'est-à-dire de la séparation, du stockage des gaz, de la séparation type membranaire, du biomédical, de l'énergie, de la catalyse, de la dépollution, de la photocatalyse. Donc aujourd'hui, je vous montrerai très peu d'exemples vraiment centrés sur ces applications parce que j'avais déjà fait un cours sur les matériaux hybrides et leurs applications où j'avais déjà donné un certain nombre d'exemples, donc je ne souhaiterais pas me répéter de façon trop forte. Et donc, si je reprends finalement les polymères de coordination, juste une slide au niveau appliqué. Donc, en fait, le schéma global d'obtention, c'est ça. Donc, c'est compétition entre complexation et hydrolyse-condensation avec différents métaux. Et on peut obtenir des matériaux avec des pores, des trous qui peuvent être plus ou moins sélectifs, qui peuvent absorber, qui peuvent avoir différentes propriétés. Alors, il y a quand même quelque chose à signaler, c'est que depuis pas mal d'années maintenant, BASF produit un certain nombre de MOF à pratiquement aujourd'hui à la tonne par jour. Donc en général, ce n'est pas quand un industriel commence à produire, ça ne veut pas dire qu'ils ont un marché, mais ça veut dire qu'ils suspectent qu'il pourrait y avoir des marchés futurs. Hein, c'est quand même important qu'un gros industriel de la chimie commence à faire justement ce genre de. D'autre part, bon, vous voyez, ça c'est ce que vous pouvez acheter dans le commerce. Donc, différents types de MOF, beaucoup centrés sur les premiers MOF, et puis les MOF type Yagi, MOF 5, etc., et également sur les matériaux de l'Institut Lavoisier, les 1000. Donc, il y a un certain nombre de MOF qui sont aujourd'hui très facilement commerciaux. Alors, il y a eu des débuts d'études. Vous voyez, ça, c'est une photo entre Gérard Ferré et les gens de BASF, parce qu'en 2013, en fait, ils avaient équipé un grand nombre de marques différentes de voitures. avec justement c'était des prototypes dans lesquels les réservoirs, en fait, c'était des réservoirs à base de MOF, c'était des milles à l'aluminium, si je crois me souvenir, avec finalement une capacité de stockage du méthane qui commençait à être très intéressante. Ça ne veut pas dire que les voitures marchent comme ça, c'était aussi peut-être une action de BASF, un peu de communication en même temps, mais ça veut dire qu'ils ont quand même en tête, de mon point de vue, un jour d'utiliser ces matériaux pour des applications réelles. Alors, stabilité des matériaux dans les conditions d'usage. Si on va vers l'application, soit on veut avoir vraiment des systèmes stables, soit on voudrait avoir des systèmes labiles, parce qu'il faut qu'ils s'éliminent, quand on se lave, par exemple, ou des choses de ce type. Donc, en fait, c'est des problèmes de stabilité. Donc, la problème de stabilité, dans un échafaudage, la stabilité, on voit tout de suite que ça va dépendre de la rigidité de comment je soude ou je visse ce système-là. Alors, les MOF, en fait, ce sont des polymères de coordination. Alors, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ? Les forces, c'est que c'est des assemblages qui sont faciles, ce sont des liaisons qui sont labiles, qui forment, reforment, donc ce n'est pas de la liaison forcément très, très covalente, comme dans des solides oxydes, comme dans des oxydes. Il y a de la dynamique de la liaison, donc ça, c'est une faiblesse, et les connecteurs entités sont des entités moléculaires, donc en fait, on va rarement au-delà d'un cluster, et un cluster, c'est une molécule, et une molécule, c'est réactif. Donc ça veut dire que ça, ce sont les forces, donc on peut faire plein d'assemblages. Et bien, les faiblesses, ce sont également les forces. Parce qu'un assemblage facile, de la dynamique de la liaison de complexation, des connecteurs, des entités, de la réactivité, ça veut dire que si on veut garder un matériau stable, il va falloir aller chercher des compromis. Alors, l'avantage également, c'est que, je vous l'ai dit, c'est que c'est une grande légochimie et qu'on a énormément de structures et de variétés dans les couples connecteurs-assembleurs. Et donc ça va donner, je dirais, une richesse supplémentaire pour essayer de compenser finalement les limitations, les faiblesses des systèmes. Alors au niveau de la stabilité thermique, ce qui est reporté dans la littérature, ce sont des systèmes qui en général se décomposent entre 250 et 500 degrés. La bonne moyenne, c'est 350, avec en fait des maximums pour ce carboxylate de lithium qui se décompose à 610 degrés, mais globalement, la décomposition, c'est la décomposition, je dirais, en gros, habituelle de la matière organique. Stabilité chimique, il y a des applications où, même si c'est en voie gaz, ce sont des gaz qui peuvent contenir de l'eau, donc il y a de l'humidité. En voie liquide, il y a l'eau avec différents pH, la présence ou non d'anions compétiteurs, les solvants organiques. Et donc là, c'est un problème qui doit être réglé dans certaines applications. Alors, ce que l'on trouve dans la littérature, c'est dans les premiers articles la diffraction de rayons X qui montre que ça ne change rien, mais comme ce n'est pas calibré, ça ne prouve rien. On est tous d'accord là-dessus. L'analyse de la surface, ça vient compléter, ça c'est mieux. Les données spectroscopiques, et ce que j'aimerais bien voir dans tous les articles systématiquement, c'est l'analyse chimique de la solution une fois que le système a été traité, pour voir s'il y a vraiment des cations ou pas. Ça, personne ne le montre, en général. Donc, oui... Il faut être un peu prudent. Alors, les stabilités des liaisons de coordination, on va en discuter dans le transparent suivant. Globalement, vous voyez, si je regarde cet équilibre avec, par exemple, un ligand carboxylate, la stabilité des liaisons va augmenter si la charge du métal augmente et le rayon ionique diminue, c'est-à-dire que si on a une densité de charge qui est plus conséquente. Alors, au niveau des facteurs de stabilité, il ne faut pas simplement être chimiste, on construit des... Par exemple, si je regarde les croisillons, donc les connecteurs, le nombre de vis du croisillon, le nombre de points d'ancrage. Typiquement, je montre en chimie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que globalement, le nombre de points d'ancrage, c'est le nombre de carboxylates qui vont entourer mon cluster. Par exemple, dans un cluster de ce type à base de zirconium, je peux faire varier le nombre de carboxy autour, par exemple, de 6 à 12. Donc ça veut dire que mon système va être plus ou moins contraint. Et puis, le nombre de vis du croisillon, c'est le degré d'oxolation, le degré d'oxyde que je forme, de pseudo-oxyde. Ce ne sont pas des oxydes, ce sont des molécules, quand même, je tiens à vous le dire. Et donc ça, c'est un critère de stabilité. Ensuite, au niveau du ligand... eh bien, la rigidité du ligand démontant va être importante. En particulier, si vous regardez une substitution nucléophile, je dirais SN1 ou SN2, ça ne change rien dans ce cas-là, vous regardez l'état de transition, vous apercevez que la torsion sur un ligand court et rigide est beaucoup plus conséquente, ça demande beaucoup plus d'énergie que sur un ligand long, même à rigidité égale. Et donc, ça veut dire que globalement, si vous choisissez des systèmes avec des ligands plus rigides et plus courts, la stabilité va augmenter. Et puis, évidemment, dans les applications où vous avez des chances de croiser la molécule d'eau, eh bien, la présence de groupes hydrophobes peut également aider à la stabilisation du système. Alors là, je vous rappelle quelque chose qu'un bon nombre d'entre vous connaissent. Enfin, c'est ce qu'on appelle la théorie de Pearson. Des acides et des bases, dures et mous, en gros, sont stables les acides durs avec les bases dures et les acides mous avec les bases molles. D'accord ? Donc typiquement, un acide mou, c'est un métal de transition comme le zinc ou le cuivre, divalent. Et puis une base molle, bah, ça va être typiquement une base azotée. D'accord ? Un acide dur, eh ben, ça va être un métal de, quand on va vers la droite sur le tableau périodique, ou vers la gauche, pardon, ou du type titane zircone, par exemple, ou même des trivalents. Et puis les bases dures vont être les carboxylates. Donc, a priori, si je choisis base dure, acide dur, ce sont des exemples de MOF hein, qui sont connus, je vais avoir des systèmes qui vont être plus stables. Et si je choisis maintenant des bases molles, comme des bases azotées, eh bien, je vais aller chercher justement des liaisons fortes avec les acides de Lewis mou. D'accord ? Donc c'est un petit peu ce que les travaux de ces dernières années démontrent. Hein, la sélection se fait en fonction de ça. Donc juste un exemple, je vous rappelle, des matériaux microporeux anciens, très connus, ce sont les zéolithes. Hein. J'ai fait un cours là-dessus, donc je ne vais pas revenir. Ce sont des aluminosilicates hein, avec des valeurs d'angulaire entre le silicium et le métal, qui peut être l'aluminium en particulier. Vous voyez, ces valeurs angulaires sont entre 145 et 150 degrés. D'accord ? Et ça donne des structures zéolithiques de ce type. Je vous rappelle, dans la représentation, chaque sommet représente un tétraèdre et chaque trait représente une liaison métal-oxygène-métal, donc silicium-oxygène-silicium, ou silicium-oxygène-aluminium. Alors, le concept de chimie réticulaire, c'est d'obtenir des systèmes qui ont ces angles-là pour les connecter. Alors, quand on regarde, ça c'est les travaux qui ont été faits dans le groupe de Yagi, quand on regarde les systèmes de type imidazolate, eh bien, on voit que la liaison azote-azote ici avec deux métaux, elle est à 145 degrés. Donc, a priori, on se retrouve finalement dans des configurations angulaires qui sont en adéquation pour former finalement des zéolithes. Et c'est ce qu'on appelle les ZIF, Zeolithic Imidazolate Framework, que l'on peut faire varier maintenant en fonction de la nature des imidazoles, si on change finalement la nature du ligand, toujours tout en gardant finalement cette double connexion à 145 degrés. Et donc ces systèmes-là, vous voyez, on développe des surfaces qui, dans ces cas-là, sont de l'ordre de 1500 à 2000 m² par gramme, avec des tailles de pores qui sont petites, donc ce sont des matériaux qui sont bien microporeux, avec des stabilités thermiques sous azote qui sont de l'ordre de 500 degrés, et des stabilités, je dirais, en milieu, en pH, je dirais, plutôt basique, qui sont relativement bonnes. Alors, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits avec ces IF, je ne vous en citerai que deux. Faire ce ZIF-7 avec ses fonctions imidazole, hein, vous voyez bien la connectique, en fait, le zinc est au sein de ce tétraèdre bleu, et puis là, vous voyez bien le ligand qui associe deux métaux. Hein. Donc, on peut déposer des films avec ces ZIF, et vous voyez, ils ont été testés, par exemple, dans la perméation de gaz, pour regarder la sélectivité. Donc, quand vous avez un mélange d'hydrogène 1 pour 1 avec un autre gaz, ici, vous avez la perméation en fonction du diamètre cinétique, et vous voyez que vous avez une forte séparation entre l'hydrogène et les autres gaz, typiquement avec des facteurs de l'ordre de 7. Et comme le système est hydrophobe grâce à ce méthyle, eh bien, il y a une bonne stabilité hydrothermale vis-à-vis de l'eau, par exemple, ou de l'eau qui est contenue dans les gaz. Ça, c'est un travail un peu plus récent qui a été fait par Jeff Long à Berkeley, Alors là, il a construit un système très rigide avec, vous voyez, le même ligand échange six liaisons de type imidazole avec du nickel pour obtenir, vous voyez, une cage qui est hyper bien soudée, je dirais, avec des liaisons qui mettent en jeu des bases molles et des acides mous, et donc c'était relativement optimum. Au niveau de la structure finale, bon, c'est une structure de type sodalite, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, mais par contre, ils sont stables jusqu'à 430 degrés à l'air, cette fois-ci, et ils sont stables dans l'eau bouillante de pH 2 à pH 14 pendant 2 semaines, avec des surfaces spécifiques de l'ordre de 1600 m² par gramme. Donc vous voyez, là, on a déjà amélioré un petit peu la qualité du système. Alors, là, je vous ai montré des exemples qui se contentaient de mélanger en fait une base molle et un acide mou. Et donc maintenant, je vais passer aux acides durs et aux bases dures, aux acides durs et aux bases dures. En particulier, je vais vous parler de MOF et de polymères de coordination à base de titane, de zirconium et un peu de niobium à la fin, mais surtout titane et zirconium parce que ce sont des systèmes qui se sont développés de façon importante plutôt dans les dernières années par rapport au premier système. Donc, je reviendrai sur les notations. Alors, la difficulté avec les métaux durs par rapport au zinc, eh bien, c'est que, je vous ai dit, on est toujours en compétition avec la complexation et des réactions d'hydrolyse-condensation. Et comme de toute façon, il y a toujours une source d'eau dans la plupart des préparations, soit c'est dans l'eau directement, soit c'est du non-hydrolytique, ça génère également de l'eau, il y a des carboxylates, il y a des alcools. Donc on a toujours en compétition des réactions d'olation, d'oxylation et de complexation. Et les connecteurs, très souvent, je ne dirais pas d'une façon totale, mais très souvent, les connecteurs de cette chimie-là sont des clusters oxométalliques. Cluster oxométallique de titane, dont il y en a un grand paquet qui a été reporté, alors avec des tailles, vous voyez des tailles différentes, simplement parce que vous avez un degré de condensation, ici c'est le degré de condensation ou le nombre de moles d'eau par rapport au titane, qui augmente, et vous obtenez des systèmes qui sont de plus en plus condensés, vous voyez. Donc globalement, vous avez une stabilité qui augmente quand le nombre de vis au sein du croisillon augmente. Ça, c'est une tendance générale. Et ça, ce sont des alkoxydes de titane qui sont simplement recouverts par des groupements alcool. Quand vous commencez à rajouter des ligands carboxylates, le ligand carboxylate, avec tous ces métaux durs, très souvent, bon, vous avez plusieurs modes de liaison possibles, je dirais le chélate sur le même métal ou le pont, pour faire simple, il a tendance énormément à se positionner en pont. Et donc, ça veut dire que les structures où il y aura des carboxylates, très souvent, vont être des structures un peu plus ouvertes que les structures, je dirais, simplement résultant de l'hydrolyse-condensation. Alors voilà une évolution des carboxylates de titane. OZ représente un carboxylate, hein, avec le taux d'hydrolyse qui augmente ici. Et ici, vous avez donc des systèmes de plus en plus condensés. Mais vous voyez que finalement, vous avez des systèmes qui sont condensés, mais il y a quand même, ce sont en général des systèmes qui sont un peu lacunaires. Alors si maintenant je regarde ça dans un contexte beaucoup plus global, de la chimie finalement d'hydrolyse-condensation des précurseurs de titane, je rajoute de l'eau et un ligand carboxylate, ce que je vais décrire ici, c'est l'énergie en fonction finalement d'un degré de condensation ou d'une connectivité organique, sachant que le système le plus stable de la famille, ben, ça va être l'oxyde de titane, TiO2, et puis que je vais avoir toute une série de possibilités de formation de clusters. Tout ça, c'est des petits puits de potentiel locaux, hein, sachant que le puits le plus profond avant l'oxyde de titane, c'est ça. C'est ce qu'on obtient quand on fait un gel ou un colloïde d'oxyde de titane, avec finalement une composition moyenne, parce qu'on a travaillé énormément d'années là-dessus, donc on connaît ça par cœur, je dirais, avec, vous voyez, toujours des ligands qui restent. Et quand vous faites, par exemple, l'exaph de ces systèmes-là, ou le wax, par exemple, vous apercevez que ces systèmes-là, finalement, ne sont pas des... Les gens disent que c'est un oxyde de titane amorphe, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des oxydes de titane amorphe. Ce sont des agrégats de clusters. Première preuve, c'est que l'exaph avec les clusters colle bien, ben, c'est des mélanges, hein, ce sont des mélanges. Par contre, deuxième preuve, eh ben, vous faites la RMN de l'oxygène 17 de ça, Et ce que vous voyez, ben, c'est des ponts mu3, mais ça vous laisse... mu3, c'est comme dans TiO2, tous les ponts sont mu3, mais vous voyez du mu2 et du mu4. Et du mu2 et du mu4, sur les oxydes, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les clusters. Donc c'est une preuve supplémentaire qui vous montre que ben, ces objets-là sont des agrégats de clusters. Mais ces systèmes-là peuvent être également des réservoirs de matière pour aller reformer des clusters, puisqu'ils se redégradent en présence d'eau, et ensuite, en présence de ligands carboxylates, ils forment finalement les metal organic frameworks qui sont des solides. Finalement, il y a une espèce de loi d'action de masse qui génère finalement ces systèmes-là. Alors là, c'est un peu l'histoire des MOF au titane. Vous voyez, entre 2000 et 2018, il y a eu pas mal de choses. Bon, j'ai en noir, c'est des exemples, je dirais, qui sont intéressants, mais qui n'ont pas changé le cours des choses. Les premiers travaux de polymères de coordination au titane, c'est 2000. Les premiers vrais MOF, c'est 2006 avec des phosphonates. Ça, c'est le travail de Christian Serre. Et ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, je dirais, au niveau scientifique, au niveau des MOF au titane, c'est le premier travail qu'on avait fait avec Christian Serre et Gérard Ferrier à l'époque. C'est le fameux 1125. Ensuite, il y a eu des modulations, des ligands différents, des clusters différents. Vers 2016-2017, là, on voit arriver un concept intéressant, c'est la combinaison MOF-COF. On travaille sur les deux, la réversibilité de certaines réactions, je dirais formation d'imine, et puis la réaction de coordination. Et puis dernièrement, en 2018, on voit arriver des polymères de coordination poreux cristallisés. Très intéressant, ce dernier travail, c'est encore un travail de Christian, qui montre finalement que par des réactions directement à l'état solide, on peut transformer un MOF en un autre MOF. Et ça ne s'était jamais vu jusqu'à maintenant. Alors rapidement, vous voyez, bon, je vais vous montrer quelques exemples. Hein. Donc ça résume un peu la situation. Avec des ligandes, vous voyez ici, on avait essayé des dendrimères benzyliques. Là, Christian avait essayé avec des systèmes de base phosphonate. Et à partir de là, bon, ce sont les carboxylates, essentiellement des carboxylates, des phénolcarboxylates, des porphyrines, des systèmes plus gros, on en a déjà parlé la dernière fois, et puis ici les fameux MOF-COF sur lesquels je vais revenir dans un petit instant. Des surfaces, vous voyez, c'est là que ça commence à être poreux et intéressant, 550 m² par gramme, 1500, et ensuite bon, ben, on va chercher des surfaces beaucoup plus élevées avec le titane, mais le maximum c'est aux alentours de 2000 m² par gramme. Alors ce premier travail, c'était des polymères de coordination, c'est un travail qu'on avait fait au labo à l'époque, on voulait simplement connecter, vous voyez, des dendrimères, avec des fonctions R ici qui n'étaient pas les carboxylates, parce qu'on savait que le carboxylate allait finir par détruire le cluster, mais des fonctions du type alcool benzylique, et on fait simplement un échange des fonctions pour aller former, vous voyez, des polymères de coordination sur la base de cluster. Le concept est le même, sauf que là, on n'a pas des matériaux poreux, on a des verres. On a des verres qui peuvent être mis en forme, on peut en faire des huiles, on peut les déposer. Ce sont des systèmes qui ne sont pas cristallins, qui sont amorphes. Alors, ce qu'a fait Christian, vous voyez, dans les années avant 2006, je pense que c'est une partie de sa thèse, d'ailleurs, c'est qu'il a pris des ligands qui ont une très forte affinité pour le titane, des phosphonates, vous voyez, et il les a associés à des précurseurs de titane, dont un acétylacétonate, par exemple. Mais ça marche également. Récemment, ils ont travaillé sur des gels de TiO2. À nouveau, c'est ce fameux réservoir dont je vous parlais, que l'on redétruit, finalement, en présence de ligandes, pour obtenir, le 1091, hein, vous voyez, une des structures en chaîne de titane, avec ces fameux phosphonates, ici, qui associent les chaînes, des surfaces qui commencent à être intéressantes, et puis des propriétés, je dirais, de sélectivité, vis-à-vis du CO2 azote 18, CO2 méthane 60, tout ça à pression normale et à des températures, vous voyez, la température ambiante. Donc en fait, ça, c'était un peu le premier travail. Alors le travail qui a vraiment fait, de mon point de vue, exploser les MOF au titane, c'est ce premier travail qu'on avait fait conjointement sur les 1125, où en partant finalement d'un précurseur d'alkoxyde, en rajoutant l'acide téréphtalique, mais un précurseur d'alkoxyde dans des conditions qui ne sont pas hyper propres. Il y a toujours un peu d'eau, et ça, c'est très important. On obtient, vous voyez, une structure cristalline où on voit des clusters de Ti8, hein, qui s'enchaînent les uns aux autres via ces fonctions acides téréphtaliques. Hein. Donc, en fait, on a des porosités qui sont assez intéressantes. Vous voyez, des porosités avec des cages de l'ordre de 12 angstroms et de 6 angstroms. Donc, on est toujours dans le domaine microporeux. Un système qui est bien cristallisé avec des surfaces de l'ordre de 1500 m² par gramme et des volumes poreux intéressants. Vous voyez, ça donne ça dans une autre vue. Vous avez les clusters en TU8 qui sont connectés par ces TRF-talates et qui, en fait, délimitent deux types de cages, la grosse cage et la petite cage, mais toutes les deux restant, je dirais, dans un domaine microporeux, c'est-à-dire, je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, ça veut dire avec des pores en dessous de 2 nanomètres. Au-dessus de 2 nanomètres, ça s'appelle des matériaux mésoporeux. Donc, par contre, au niveau de la chimie, je vous ai dit, eh bien, finalement, ce qui marchait le mieux, c'était des systèmes où, finalement, il y avait déjà un certain taux d'hydrolyse. Alors, une étude qu'on a faite avec Laurence et Christian, c'est de, finalement de partir de d'autres types de clusters, pas exactement le même, mais on y a été, je dirais, avec, vous voyez, des clusters qui n'ont rien à voir avec la structure. Ça veut dire que, globalement, on a un composé intermédiaire que l'acide vient redégrader pour aller former la forme stable. Donc, l'histoire que vous lisez de la Lego, je pars de A jusqu'en B, c'est pas toujours vrai. C'est même pas souvent vrai. Il y a toujours une série d'équilibres, et le système se refait, se défait et se forme. Alors évidemment, la loi d'ascension de masse vous permet d'obtenir un système qui est cristallisé à la fin. Donc vous ramassez le système, vous faites la cristallographie. Mais tout ce qui s'est passé en solution, c'est pas A plus B plus C plus D. C'est pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. C'est simplement ce que je voulais vous souligner. Donc voilà, donc on obtient ce cluster, et en fait, ce cluster, on a tout de suite regardé les propriétés photochimiques. Et ça a aussi mis beaucoup de... Ça a donné du grain à moudre, parce qu'on avait un système qui n'était pas un oxyde de titane, mais qui avait des possibilités de photochimie, et donc en particulier, excité par une radiation, eh bien on pouvait réduire l'alcool benzylique, et le titane, lui, se transformait en titane 3, puis c'était réversible. Donc ça veut dire que là, on ouvrait dans cet article non seulement un nouveau système MOF à base de titane carboxylate, mais également on levait le rideau de tout ce qui est photochimique. Alors évidemment, derrière, il y a eu un certain nombre de travaux qui étaient très intéressants. Par exemple, passer du téréphtalique à l'aminotéréphtalique, il n'y avait qu'un pas. On obtient la même structure, mais cette fois-ci, comme on a un système qui est conjugué ici, eh bien, au lieu d'avoir un matériau blanc, on va avoir un matériau jaune. Simplement, on conjugue le système, on se déplace vers les grandes longueurs d'onde et on absorbe mieux la radiation visible. Alors ça, c'est un premier travail qui a été fait en 2012 par des collègues chinois qui ont montré finalement que ce système-là permettait la photoconversion du CO2 en ion formiate en utilisant un réactif sacrificiel. Et donc, c'était un peu... J'irai aussi le démarrage, finalement, de tous les travaux basés sur les MIL, les MOF au titane, qui regardent, finalement, les aspects conversion de CO2, photoélectrolyse, etc. Alors, bien entendu, je vais assez rapidement sur certains travaux. Le pas suivant, c'était simplement d'utiliser les mêmes concepts, de rajouter un petit peu de platine comme co-catalyseur, et puis d'exciter avec de la lumière visible, puisque l'amino permettait l'absorption, et justement d'obtenir finalement de la production d'hydrogène. Ça, c'est un travail. Bon, je dirais que tout ça découle finalement de la même logique. Après, il y a eu un certain nombre de travaux, toujours sur le 1000 amino, le 1125 amino, qui ont permis d'utiliser finalement ces systèmes pour séparer les gaz acides en particulier. C'est un travail à nouveau de l'équipe de Serre, vous voyez. En fait, ces systèmes sont stables, à 300 degrés, relativement bien stables dans l'eau, parce que, justement, ils sont construits également sur des connecteurs rigides et puis avec des bases dures et des acides durs. Donc voilà, avec, vous voyez, des sélectivités qui sont assez bonnes, par exemple pour H2S méthane 70, pour CO2 CH4 7. Donc ça, c'était le jeu. Là, ce sont des travaux que nous avons faits en collaboration avec Caroline et le groupe de fond de cave, où ce sont des travaux, je dirais, beaucoup plus centrés sur la compréhension à la fois des propriétés optiques et de photocatalyse de ces fameux 1125. Alors, ces systèmes à base de titane, amino, de 1000 amino, donc d'acide téréphtalique aminé, ont été, il y a un certain nombre de publications, où finalement, ce 1000 amino qui absorbe dans le visible et qui est capable de transporter des charges peut être utilisé un peu comme... les colorants dans la cellule de Grotzel, c'est-à-dire des photosensibilisateurs. Ça peut être utilisé comme photosensibilisateur. Et à partir de là, vous voyez, si on fait une électrode en carbone vitreux mixte entre l'amino, le 1125 amino et du TiO2, et bien, on a le photosensibilisateur ici. Et évidemment, et bien, il va y avoir des modifications de réponse du photocourant au fur et à mesure, par exemple, que l'on modifie le couple redox de l'herbicide qui est le clétodium. Donc ça peut permettre de faire un capteur avec des taux de détection de l'ordre de 0,3 micromol par litre, vous voyez, sous lumière visible. Bon, c'est quelque chose d'assez simple. Et ici, vous avez la réponse des photocourants en fonction du temps et en fonction de la quantité de molécules que vous voulez capter. Donc en fait, ça, c'est une utilisation qui paraît... En fait, dans cet exemple-là, on se sert du mélamino comme d'un colorant. Exactement comme d'un colorant qui permet justement d'absorber la radiation lumineuse et de transférer les charges au TiO2. Et ensuite, la boucle est bouclée avec le couple redox de cette molécule organique. Et le courant généré vous donne finalement un moyen de capter cet herbicide. Ça, ce sont des travaux un peu plus récents, toujours avec le mélamino, qui est relativement stable. Donc, il peut avoir également, on peut le dégrader de façon contrôlée. Et donc ça, c'est un vecteur finalement d'un agent antidote en fait, la prolixadine, qui est utilisée pour traiter les empoisonnements aux organophosphorés. Le sarin, typiquement, c'est un gaz très dangereux. Hein. Et donc en fait, c'est ce système-là qui permet finalement de traiter au niveau des gens qui sont empoisonnés, de limiter les dégâts de cette maladie. Alors, l'avantage, c'est qu'on obtient des particules nanométriques de taille, je dirais, raisonnable, avec des stabilités en milieu organique et à différents pH. Elles se dégradent, finalement, en milieu aqueux, mais on peut, finalement, délivrer ce genre de principe actif de façon relativement contrôlée. Alors, je vous ai dit que ces composés à base de titane, de clusters de titane et d'acide téréphtalique aminé, justement, avaient des propriétés photochimiques et de photocatalyse intéressantes. Et donc là, je vais vous prendre un exemple assez amusant, je dirais, que j'ai pris dans le travaux de mon collègue et ami João Rocha au Portugal. Vous voyez ici, vous avez la dégradation en lumière du jour du mélamino, la dégradation du bleu de méthylène. Bon, c'est quelque chose, une manip qui est assez classique. Vous voyez que le mélamino a une dégradation en fonction du temps du bleu de méthylène qui est beaucoup plus efficace. Alors ça, ça a été utilisé en particulier. Il y a des travaux relativement récents où on dépose finalement ces mofs au titane sur des textiles, sur des tissus, pour justement les utiliser comme nettoyeurs de tissus pour la photodégradation. Vous voyez, ce sont des travaux 2017, 16, 15, 14. C'est relativement récent, tous ces travaux-là. Alors l'exemple que je voulais vous montrer, c'est celui-là. C'est les revêtements pour moustiquaires à base de 1125. Bon, les moustiques, je ne vais pas vous faire un cours sur les moustiques. Vous savez que dans certaines régions du monde, c'est un grand danger et c'est générateur de beaucoup de maladies. Alors, ces 1125 ont été déposés finalement sur différentes fibres et différents tissus. Alors, au niveau de la chimie, vous voyez, bon, finalement, là, c'était juste pour vous faire voir que ça marchait. Et donc, finalement, ce sont des systèmes qui sont assez efficaces. Alors, au niveau de la chimie, ça marche de la façon suivante. Vous avez, ici, ça représente finalement ce MOF 1125 au titane. Vous avez toujours une résine qui, via des interactions, permet au MOF de s'accrocher. Et également, vous avez l'hybridation de votre revêtement avec une silice, avec des époxys qui vont s'ouvrir pour aller se réagir finalement avec les fonctions disponibles. Alors ça donne quelque chose de ce type, c'est vraiment un dessin très grossier. Vous avez le MIL qui est photocatalyseur, qui s'associe facilement avec les OH finalement du tissu. Hein. Je vous rappelle, ce sont en général des tissus, il y a toujours des fonctions alcool hein, sur les tissus. Et vous avez également la résine qui sert finalement à augmenter, c'est un agent de pressage qui permet de donner une meilleure résistance au froissement et à la stabilité dimensionnelle. Donc c'est un composite où la phase active, c'est le 1000. Alors voilà ce que ça donne. Ici, c'est la mortalité des moustiques en fonction de la concentration en 1125 dans le composite que vous avez dans le tissu. Alors vous voyez que sans lumière, À 6 grammes par mètre carré, vous avez des mortalités qui sont de l'ordre de 15-18%. Par contre, sous lumière, eh bien, vous avez des mortalités de 100%. Et évidemment, en fonction maintenant de la nature chimique du tissu, eh bien, vous avez des petites variations au niveau de l'efficacité. Alors, en fait, d'une façon globale, sur l'ensemble des tissus, ça assure 68% de mortalité, même après 5 cycles de lavage. Ça veut dire que le système tient sur le... Et recyclable, que le tissu est recyclable. Et ce qui se passe finalement, c'est que le 1125, son premier rôle, c'est de faire une petite photodégradation de la résine qui libère du CO2. Le CO2, en fait, est capté par les moustiques, ça les attire. Et à ce moment-là, quand ils arrivent sur le tissu, quand ils se posent sur le tissu, il y a une deuxième réaction qui aujourd'hui n'est pas encore connue avec le 1125, qui dégrade finalement, qui tue le moustique. Donc voilà, c'était juste un exemple un peu amusant de l'utilisation de ces MOF de titane. Alors les systèmes, les polymères de coordination à base de titane ont beaucoup évolué. Hein, bon, là, c'est un autre exemple où finalement on utilise l'acide benzoïque dans une première étape avec l'isopropoxyde de titane. Donc là, on va faire dans une première étape, on va faire une première brique, le cluster. Vous n'avez pas de fonctionnalité d'accroche ici. On va faire le cluster et dans un deuxième temps, eh bien, on va soumettre ce cluster à un ligand, je dirais, polyfonctionnel. Donc, dans le cas présent, c'est une porphyrine, c'est la tétrakis 4-carboxyphénylperphinène. Donc, les groupements carboxylates sont portés par ces petites boules en rouge. Et l'ensemble va créer, justement, c'est ce que je vous disais, on détruit le cluster initial, on va former un autre cluster. Donc, la légochimie où on emboîte de là jusque là... Dans de nombreux cas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. Et donc, en fait, on a un système qui est moins réactif, qui est recassé, rebrisé chimiquement par la présence de ces carboxylates pour aller former ce cluster. Alors, ce cluster, ça donne, vous voyez, des empilements de clusters TI7O6 avec les porphyrines. Là, on les voit par la tranche. Ici, on a fait tourner la figure de 90 degrés. Vous voyez les porphyrines qui associent ces clusters de TI7. Avec des surfaces spécifiques de l'ordre de 1300 m² par gramme, des pores de l'ordre de 15 angstroms. Alors, ces systèmes sont photoactifs dans le visible et ont été utilisés, par exemple, pour, comme catalyseurs, photocatalyseurs pour détruire, par exemple, de l'acide benzylique, le transformer en benzaldéhyde. Et ce que vous avez ici, c'est une étude comparée des oxydes de titane, d'autres clusters, je dirais, de la même famille, mais avec des ligands plus petits, et puis le fameux PCN22 qui est à base de porphyrine, qui présente finalement l'efficacité photocatalytique la plus marquée. Et donc ces systèmes-là, on peut également les monter sous forme d'électrodes. Et ce que vous voyez ici, c'est sous illumination. Vous voyez un photocourant, donc le système marche, et le photocourant est positif, ce qui montre que finalement, vous avez un semi-conducteur de type N. Dans le cadre de ces nouveaux matériaux à base d'oxyde de titane. Donc ça, je vais peut-être le sauter assez vite. Voilà. Et donc là, c'est un exemple un petit peu qui sort du rang parce que c'est un des rares polymères de coordination cristallisés à base de titane 3. Vous savez que le titane 3 est assez difficile à stabiliser, mais dans des conditions justement sans oxygène et de façon avec des solvants très propres, on arrive à, en utilisant l'acide téréphtalique, un titane trivalent qui va se mettre en actarène, ben on retrouve finalement les structures qui avaient été décrites par Ferré avec le chrome ou avec le fer, les fameux 1051. C'est un exemple intéressant parce que, au niveau de l'application, ce n'est pas intéressant. Parce que ce n'est pas stable, hein, le titane 3 ne tiendra pas. Par contre, pourquoi c'est intéressant? Parce que vous avez un système 100% de titane 3, ça veut dire que tout le monde est D1. Les orbitales, c'est D1 pour tout le monde. Et si je travaille proprement et je fais une électrode avec ça, forcément, j'aurai quand même un petit peu d'oxygène qui va me faire du D0. Et qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat à la fin? Eh bien, je vais obtenir, ce qui est assez rare, un semi-conducteur à base d'oxyde de titane P. Ben oui, parce qu'au lieu d'avoir un peu d'électrons et beaucoup de trous, les électrons sont les porteurs. Là, je vais avoir beaucoup d'électrons et un peu de trous. Et donc, c'est les trous qui vont être des porteurs. Donc, au niveau, s'il y a quelqu'un qui a envie de s'amuser dans la salle, c'est peut-être quelque chose à faire de façon intéressante. Au niveau application, je n'y crois pas, mais au niveau du concept, ça peut être marrant. Alors, d'autres types d'approches, je vous ai dit ça a été également une rupture de mon point de vue, c'est l'approche MOF-COF. Donc, première étape, on fait réagir, vous voyez, avec l'aminotéréphtalique, un alkoxyde de titane, dans les conditions et la stoichiométrie qui permettent de générer ce petit cluster de TI6. Bon, ça, c'est des choses qui sont bien reproductibles. Vous voyez, mais ici, j'ai une fonction amine. Et donc, cette fonction amine, là, j'ai fait un embryon qui demande à être formé un MOF. Et bien, la connectique, je vais la faire avec une aldéhyde difonctionnelle. Et je vais faire un couplage amine-aldéhyde, une imine, typiquement ce que je vous ai montré sur le cours des COF. D'accord ? Et donc, ça permet d'obtenir ce genre de structure où vous retrouvez finalement le cluster de départ, le TI6. Il a été formé là. Après, il n'y a plus d'hydrolyse condensation. C'est une réaction d'imination, en fait. Et vous obtenez, vous voyez, des surfaces de l'ordre de 620 m² par gramme, des cases hexagonales bien, bien délimitées, des portes de 14 angstrom. Alors, évidemment, ben, le chimiste, il s'est tout de suite modulé, finalement, le montant de son système. Vous voyez, au lieu d'utiliser ce système-là, on va prendre un montant plus large. Et on va obtenir également des systèmes avec des cages plus grandes, des cages plus grandes, des ports différents, vous voyez, en modulant un petit peu de 2 angstrom la taille des ports. Bon, donc tout ça, c'est relativement modulable. Mais ce que j'ai trouvé dans ce travail, c'est que c'était vraiment une approche qui n'avait pas été, je dirais, faite par d'autres. Alors, l'intérêt de ces matériaux avec des porosités contrôlables, c'est qu'on peut les utiliser comme catalyseur, puisqu'il y a du titane, ça veut dire qu'en l'excitant avec une lumière, eh ben, on va créer des électrons. Et si on veut polymériser un polymère, eh ben, les électrons vont être là. Et on va polymériser par voie radicalaire, par exemple, des métacrylates de méthyle ou de benzyle, avec de la lumière pour former finalement les oligomères ou les polymères correspondants. Alors, ce qui m'a paru intéressant dans ce travail, voyez, c'est qu'en fonction de la taille du canal, eh bien, on obtient, dans les deux cas, des rendements corrects, des masses moléculaires en nombre, vous voyez, pas des choses très, très grandes, mais raisonnables, mais surtout, en ajustant la taille du canal, on obtient des indices de polydispersité qui sont bons, hein, pour les polyméristes, 1,1, 1,11 dans ces conditions-là, c'est quelque chose qui est raisonnable. D'accord ? Donc, bon rendement, faible polydispersité dans ce cas-là. Et ça, c'est un des derniers travaux, justement, de l'équipe de Serre, qui sont repartis finalement dans la même logique, obtenir, vous voyez, condensation des espèces à base d'oxyde de titane et association via en fait des ligandes tétrafonctionnelles, avec dans la solution, vous voyez, un peu d'acide formique qui joue le rôle finalement d'un modulateur par rapport aux fonctions d'accrochage. Hein. Donc, c'est lui qui va aider à la réversibilité. Donc, ça, c'est un travail, vous voyez, de 2018. Et donc, ce qu'ils ont montré dans ce travail, c'est qu'ils obtenaient, vous voyez, des clusters de type TI12 qui s'enchaînaient via, finalement, ces ligands tétrafonctionnels, mais également avec des ponts carboxylates. Les petits ponts rouges représentent, finalement, les ponts formiates. Et donc, ça donnait des structures qui étaient originales, qui n'avaient jamais été découvertes jusqu'à maintenant, et qui permettaient, vous voyez, d'avoir des canaux microporeux de petite taille, de l'ordre de 3 angstroms, vu selon cette quand on regarde la figure dans le plan de l'écran. Par contre, les canaux hexagonaux, vous voyez, sont à 11 angstroms. Hein, donc, en fait, ça permet d'obtenir des systèmes qui sont assez originaux, des surfaces de l'ordre de 700 m² par gramme. Ces matériaux-là peuvent être dopés avec des éléments trivalents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une stabilité en milieu acide, vous voyez, au régal, HCl, H2SO4, acide qui est relativement bonne, qui est vraiment très bonne. Hein, donc, à nouveau, c'est le couplage entre les bases dures et les acides durs qui permet finalement ces stabilités, plus, je dirais, les degrés de condensation du croisillon, hein, vous voyez, on est à TI12 au 24, qui commence à être... Alors, la partie que je trouve encore plus originale dans ce travail, c'est justement qu'en partant de ce nouveau polymère de coordination, ceci représente les clusters, hein, vous voyez, eh bien, par réaction à l'état solide, simplement, pas par la solution, vous avez fusion, finalement, des clusters pour faire des chaînes, des chaînes photoconductrices. Vous créez un solide par réaction à l'état solide dans le cas présent. Je pense que c'est la première fois que je vois ce genre d'approche, au moins dans le cas des MOF. Et là, ça devient intéressant parce que, j'irais au niveau des transports de charges, dans un polymère de coordination de ce type, vous allez avoir finalement, vous voyez, il y a une discontinuité, alors qu'ici, vous avez une continuité finalement du transport de charges. Donc le système est photoconducteur, avec des surfaces qui ne sont pas très élevées, mais c'est plus le concept qui est intéressant, alors, bon, 700 m² par gramme, photoconductivité qui n'est pas négligeable, et surtout, ce qui a été fait dans ce travail, c'est qu'ils l'ont, ils ont imprégné le matériau de tertiophène, et ensuite ils ont polymérisé cet oligomère de tertiophène via une polymérisation oxydative, ça on a vu ça plusieurs fois dans les cours précédents, pour faire un système, une jonction PN, si vous préférez, le N étant finalement le MOF au titane, puisque c'est lui qui va transporter les électrons, et les trous vont être transportés dans le semi-conducteur P, qui est le polythiophène. Donc en fait, ce sont des systèmes qui présentent des longs temps de vie des porteurs de charge, et on le comprend, puisque là, on a vraiment une continuité de réseau, on n'a pas à se faire des sauts via les ligandes pour aller de cluster en cluster. Hein. Et donc, ce sont des systèmes qui sont testés, je dirais, au niveau académique, tout du moins, pour des processus de photoconversion. Alors, un autre système, donc je vous ai parlé du titane, un autre acide très dur, c'est le zirconium 4, qui a également commencé à être étudié de façon un petit peu intensive dans la littérature. Là, du côté du zirconium 4, au niveau des clusters oxo du zirconium, eh bien, c'est déjà un petit peu moins riche malgré tout. Si on regarde la littérature, finalement, un des premiers qui a été décrit, c'est ce fameux ZR13, ça avait été fait par Morosine en 1977. Et puis sont venus derrière d'autres clusters, vous voyez, avec 4 atomes du zirconium, puis 10. Et donc ça, c'est des travaux qu'on avait fait au labo, vous voyez, dans les années 90. Et le travail ici du ZR6 au 4, avec des fonctions acides métacrylates, à l'époque, les gens ne cherchaient pas du tout les MOF, c'était plutôt la compréhension des mécanismes d'hydrolyse condensation en prenant les clusters comme modèle. Et ça, c'est un travail qui a été développé par le groupe d'Ulrich-Schubert à Vienne. Et donc, ça, il y a une chimie intéressante, mais qui est moins riche. Alors, quand on regarde maintenant ce qui se passe du côté des MOF à base de zirconium, bon, ben, il y a différents types de briques. Mais il y a une brique qui est très, très utilisée, c'est cette brique qui est un condensat de 6 atomes de zirconium en coordination suite, vous voyez, avec un cœur qui est un cœur, je dirais, résultant des réactions d'hydrolyse-condensation, comme dans les cas, et puis une périphérie qui peut être couverte jusqu'à 12 fonctions carboxylates. Bon, vous voyez ici les zirconiums en violet, hein, et les zirconiums en vert. Et vous voyez ici les modes de carboxylate qui sont à nouveau pontants. Hein, je vous ai dit, dans les métaux durs, la plupart du temps, le carboxylate est pontant. Alors, la connectivité de ce cluster, c'est une connectivité qui est très souple. Donc, ça veut dire que c'est un système qui est robuste, qui est très souple et qui est très souvent utilisé, puisqu'on peut faire varier, vous voyez, non seulement la connectivité du nombre de carboxylates, 6, 8, 10, 12, donc le nombre de points d'accroche, si vous préférez. Et puis également, on peut jouer un petit peu sur l'état de condensation de la brique, du connecteur, en répartissant un peu différemment les ponts oxo et les ponts hydroxo. Et aujourd'hui, sur l'ensemble des MOF à base de zirconium qui sont décrits, je dirais qu'il y en a à peu près 80 qui ont été reportés, avec des petites variations, ce n'est pas tous des MOF originaux, il y a 46 MOF qui présentent des motifs de type ZR6, d'accord ? Alors, le premier travail qui avait été fait, vous voyez, c'est un travail partant finalement du cluster oxo du zirconium avec des fonctions carboxyliques, et ensuite remplacer ces fonctions carboxyliques par finalement des acides divalents, soit de l'acide muconique, soit de l'acide téréphtalique. Alors, quelque chose qu'on apprend quand on passe à cette chimie-là, c'est que cette brique ZR6, elle est hyper stable. Parce que contrairement à beaucoup d'exemples dans le cas du titane, eh bien là, c'est pas que je veux pas me contredire, mais dans ce cas-là, on peut passer finalement de la brique élémentaire que l'on fait avec un ligand monofonctionnel, on rajoute le ligand fonctionnel pour aller à quelque chose qui est construit à partir de la brique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des équilibres, que le système s'ouvre, se ferme pas, mais ça, c'est possible. Mais en tous les cas, ça peut être décrit de cette façon-là. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un NUIO 66, simplement parce que ça a été découvert par une équipe de l'université d'Oslo. Vous voyez, des surfaces de l'ordre de 1100-1200 m² par rame. À nouveau, des systèmes microporeux, des systèmes stables à 500 degrés. Alors, une fois que la porte est ouverte, évidemment, il y a toutes les équipes qui se mettent à travailler avec différents ligands. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de publications dans le domaine. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une porte avec un nouveau concept, tout le monde vient changer les ligands, etc. Ça, c'est un peu la logique des choses. Alors, là, vous avez justement un ensemble de ligandes dans lesquels vous allez pouvoir passer du téréphtalique le plus court, un peu plus long et encore plus long. Et puis, bon, ça veut dire que vous allez jouer sur la taille des espaceurs. Comme la brique de base, le ZR6 est très robuste, eh bien, globalement, vous allez avoir une espèce de chimie linéaire ici, une croissance finalement de la taille des ports, 6 angstroms, 8 angstroms, 10 angstroms, vous voyez, avec des surfaces 1200, 3000 m² par gramme, 4000 m² par gramme. Donc, ça, c'est de la chimie un peu sur mesure, hein, parce que justement, cette brique est particulièrement stable. Alors, la chimie sur mesure, ben, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites autour justement de cette brique ZR6, par exemple, en modifiant le nombre de connexions sur la surface du croisillon, du cluster. Vous voyez, ici, on va compléter ça avec des systèmes qui sont connectés à trois fonctionnalités avec une connexion de 6. Ici, quatre fonctionnalités connectées 8 fois. Ici, connectées 10 fois. Ici, connectées 12 fois. Et à nouveau, ça va donner une variante dans les structures, de la taille des ports, par exemple, et également des surfaces spécifiques. Donc, finalement, ce sont des travaux intéressants qui sont un petit peu en continuité, de mon point de vue, avec les travaux de départ. Là, ce sont des boulots qui ont été faits par le groupe à Northwestern, par Omar Farah, qui sont assez jolis. Vous voyez, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils utilisent une fonction pyrène. Bon, ça veut dire pyrène, ça veut dire que je vais aller chercher un système fluorescent, éventuellement que je vais pouvoir quencher pour faire un capteur. Ça, je vous ai montré plein d'exemples les autres fois, avec une connexion tétrafonctionnelle. Et à nouveau, je vais me mettre dans les conditions où je vais former mon cluster pour obtenir, vous voyez, des petits ports. Une structure ici, vous retrouvez le pyrène connecté. Ici, dans les parties rouges, ici, ça, c'est le cluster. Je vais assez vite. Hein, d'accord ? Et donc, ça génère deux tailles de ports, des petits ports latéralement, que vous voyez ici en violet, et puis des gros ports, vous voyez, que vous voyez selon l'autre orientation. Et, comme je vous l'ai dit, eh ben, une fois qu'on tire sur le fil, eh bien, on obtient différents types de systèmes en jouant sur la taille du ligand et donc des surfaces qui sont ajustables. Vous voyez, je crois qu'ici, on n'est pas loin des optimums en MOF, avec du zirconium. Hein, je vous ai montré dans le premier cours, le cours d'introduction, qu'on obtenir des surfaces un petit peu supérieures à celle-ci. Vous voyez, pour la même famille de matériaux à base de clusters oxo du zirconium, eh bien, on obtient, vous voyez, des surfaces qui vont jusqu'à 6000 m² par gramme. Donc ça, c'est l'utilisation, finalement, pour une application. C'est assez récent également. C'est l'utilisation de ces MOF de zirconium, hein, contenant, par exemple, vous voyez, des molécules pyréniques. Vous voyez. Alors, ce qui a été recherché dans ce travail, c'était justement une non-compensation, finalement, des fonctions de connexion. C'est-à-dire faire un MOF qui, en gros, avait cette structure cristalline, mais dans laquelle, finalement, on crée un certain nombre de défauts. Par exemple, au lieu d'avoir une connectivité maximum de 12, on s'arrange dans les rapports stoichiométriques pour avoir une connectivité de 8 et on va créer des défauts. Et ces défauts vont permettre d'insérer finalement des molécules, par exemple, que l'on veut détruire. Et puis les défauts, quand il n'y a pas de carboxylate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon site acide de Lewis qui va être libre. Et si je veux faire une catalyse acide, j'ai intérêt à avoir des sites acides de Lewis qui sont libres. D'accord? Et donc ça a été... En fait, ce que... Le système, ça a été testé sur des molécules parce qu'en fait, ces molécules toxiques en guerre chimique sont souvent à base de phosphonate. Et la première élimination de ces systèmes, c'est l'hydrolyse de phosphonate. Donc ça, c'est une molécule modèle qui a été testée, Et donc, on a une efficacité, je dirais, assez importante sur l'hydrolyse du phosphonate. Et ils ont même été jusqu'à le tester avec du somane, qui est une véritable molécule. Alors là, il faut avoir sans doute des conditions de laboratoire tout à fait particulières. Et également, le système est très efficace dans la destruction de ces molécules toxiques qui sont, hélas, utilisées en guerre chimique. Alors, pour aller un peu plus loin, on peut utiliser justement ces MOF. Je vous ai parlé de propriété de luminescence. Bon, la propriété de luminescence, on va la faire, on va utiliser la partie organique pour faire la luminescence. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait récemment, qui permet finalement la détection d'explosifs ou d'antibiotiques. Alors comment ça marche ? On va faire un MOF à base de clusters de zirconium. Hein, je reste toujours sur les mêmes entités que l'on va connecter via ce genre de ligand trifonctionnel. Mais astucieusement, ici, on va modifier un peu les substitutions autour du noyau aromatique central de telle façon à ce que le système ne soit pas plan, c'est-à-dire à minimiser les problèmes de relaxation radiatif qui diminuent finalement la luminescence. Et ensuite, la molécule va venir se coller sur le système luminescent et ça va faire un détecteur. Il y a beaucoup de surface, donc c'est possible. Donc, en fait, ce système-là, avec ses connecteurs fluorescents, on peut suivre finalement l'absorption soit d'antibiotiques, soit d'équivalents, je dirais, d'explosifs, hein, des molécules modèles, voyez, avec des sensibilités qui sont de l'ordre de 50 ppb et des taux d'absorption qui ne sont pas négligeables, c'est de l'ordre de presque du gramme par gramme, avec des vitesses d'absorption qui sont assez rapides, de l'ordre de quelques minutes. Et donc là, c'est vraiment un peu de la construction sur mesure, parce que globalement, le MOF à base de clusters de zirconium, c'est quelque chose qui est très reproductible et très robuste. Et donc maintenant, on va jouer sur le ligand, ajuster finalement la chimie du ligand pour obtenir finalement une réponse fluorescente intéressante que l'on peut éventuellement quencher en présence d'une molécule qui vient s'absorber. Donc ça, ce sont des chaînes de Z07. Là, je vais aller regarder l'heure parce que je ne voudrais pas être trop long. Donc à nouveau, ce sont des chaînes qui ont été publiées assez récemment. Donc là, je vais assez vite. Et ça, c'est un des derniers exemples concernant le zirconium et le titane que je voulais vous montrer. C'est un travail qui vient de sortir, hein, qui est du 2018, où finalement, on combine dans le nœud de réticulation à la fois du titane et du zirconium en faisant un cluster OPSO qui, lui, va être, vous voyez, c'est un peu une forme de lanterne. Où vous avez ici les 8 atomes de titane au sommet d'un cube qui sont chapeautés par de 2 atomes de zirconium, avec des chimies qui sont quand même assez voisines au niveau de la force des liaisons. Et donc ce système-là, finalement, il a été créé en associant, vous voyez, des fonctions assez simples du type terephthalate. C'est simplement un exemple. Je ne vais pas aller dans le détail des propriétés, mais c'est un des premiers exemples où les gens couplent finalement cette chimie des métaux à base de titane et à base de zirconium. Alors bon, un des derniers exemples que je vais vous présenter, justement, vous savez, il y a très peu de MOF à base de niobium. Ça, c'est des exemples qui sont très peu. Et j'ai trouvé que cet exemple qui a été publié par les collègues de Coase, vous voyez, en 2016, était assez intéressant. Et là, ils combinent finalement des liaisons molles, je dirais acide mou, base molle, avec des interactions électrostatiques. Alors, ce qu'ils avaient fait dans un premier temps, c'est que bon, le nickel, bon, va s'associer à cette pyrazine. C'est ce que je vous ai montré dans le cas des IF, par exemple. C'est le même type de liaison. Pour former, vous voyez, ce système. Mais il y a une charge qu'il faut compenser, puisque vous avez ici une molécule qui est neutre, et ici, vous avez un cation qui est divalent. Et dans le cas présent, en fait, cette charge elle est compensée par un octaèdre chargé du SIF6. Hein, et donc, on met en présence et donc on associe le système pour former, voyez, des réseaux qui sont à la fois basés sur une liaison, je dirais, acide-base molle et faible, et puis également des interactions électrostatiques avec ces octaèdres qui viennent compenser la charge. Alors ces travaux-là avaient été faits antérieurement, ils avaient des sélectivités à certains gaz qui restaient assez moyennes. Alors ce qu'ils ont fait, et là ça a été vraiment la construction à nouveau de la cristallographie, ils se sont dit si on change un peu le connecteur oxométallique qui permet de compenser la charge sur le nickel, en particulier en changeant la taille de cet octaèdre, je vais forcément entraîner des distorsions, même si je garde globalement le même réseau, je vais entraîner des distorsions assez notables qui vont me permettre de régler finalement la taille de mes fenêtres. Et ça, c'est ce qu'ils ont proposé, ça a l'air de marcher. Vous voyez ici, ça c'est le système construit à base de SIF6 anionique, la fonction diazotée qui connecte finalement les différents méthodes. Vous voyez ici, vous avez l'ouverture ici, hein, avec des octaèdres d'une certaine taille. Lorsque vous substituez, pour compenser la charge, ces octaèdres de silicium par des octaèdres de niobium, vous voyez, avec pratiquement dans les deux cas du fluor, hein, mais plus gros, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'octaèdre est plus gros et donc ça pousse finalement le ligand pyrazine. Vous voyez, ça le décale. Ça le décale. Et ici, ce que vous faites, en les décalant, pour des raisons purement de géométrie, de structure, vous allez changer la taille du trou. Vous allez un peu faire un trou sur mesure. D'accord ? Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que justement, ce nouveau matériau à base de nickel et de niobium, eh bien, c'est un matériau qui est très sélectif pour la séparation entre le propylène et le propane, qui n'ont pas des différences de taille énormes. Vous voyez ici, c'est l'adsorption en fonction de la pression. Alors vous voyez que le propane n'est pas du tout absorbé, alors que le propylène est bien absorbé. Donc ça permet finalement d'avoir, dans des mélanges propane-propylène, donc d'oléfine et de paraffine, c'est un problème industriel important, d'avoir des systèmes séparateurs sur des molécules qui sont très voisines, mais des séparateurs qui sont très très efficaces. Hein. Donc en comparaison, si l'on compare maintenant les résultats de ce nouveau MOF à base de niobium à un tamis moléculaire à base de zéolite, ça c'est déjà utilisé au niveau de l'industrie, température d'utilisation 400 degrés, 423 Kelvin, pardon, haute pression, ici température ambiante, pression ambiante, récupération du propylène 26%, ici 100%, avec également des puretés qui sont à peu près correctes dans les deux cas, mais également des vitesses en fait, de séparation qui sont nettement à l'avantage de ce nouveau matériau de type MOF. Hein. Donc ça, c'est commercial, ça ne l'est pas, mais je dirais que c'est un bon modèle avec des performances qui sont intéressantes. Alors, je vais finir mon exposé sur ceci, c'est-à-dire qu'on a vu aujourd'hui les stabilités chimiques, thermiques, et comment on arrivait à trouver finalement des indices ou des façons de moduler finalement ces stabilités. Mais il y a toujours finalement un défi qui reste, c'est que dans la plupart de l'utilisation des MOF, eh bien, même si vous obtenez des grandes surfaces, les MOF très souvent ont des modules d'ions. Vous voyez ici ce qu'on reporte, c'est le module d'élasticité ou le module d'ion en GPa, en gigapascal, en fonction de la dureté. Hein. Et vous voyez, les MOF se trouvent ici, dans cette zone. Les polymères sont en dessous, mais bon, il y a également, ils peuvent présenter de l'élasticité, de la plasticité. Les zéolites sont là, les céramiques sont là. Donc, en fait, c'est une zone un peu intermédiaire. Mais au niveau, par exemple, des modules Young et des duretés, en fait, de nombreux MOF, même s'ils ont des très grandes surfaces, sont limites. D'accord ? Et donc, les pressions, très souvent utilisées dans les vraies applications, sont de l'ordre de plusieurs GPa. Donc, ce que ça entraîne, finalement, c'est que c'est bien pour une publication, mais si on veut vraiment en faire un matériau, eh bien, le matériau s'amorphise, on perd de la microporosité, la surface diminue, et puis les performances en adsorption ou catalyse chutent forcément. Hein. Même si on a des systèmes qui sont assez stables, comme les MOF au titane, les MOF au zirconium ou les IF. Hein. Donc, ce problème de stabilité mécanique reste un souci un défi qu'il faut vaincre. Alors, comme exemple, je voudrais vous montrer simplement un travail qu'a fait Ram Kumar, qui est ici dans la salle, au premier rang. Donc ça, c'est un travail qu'il a fait pendant sa thèse. Finalement, lorsque vous n'obtenez pas de façon optimum les propriétés d'un matériau, ben, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va chercher le composite. Et donc ce qu'il a fait là, c'est qu'il a utilisé un MOF à base de magnésium, quelque chose, je dirais, un MOF classique. Vous voyez qu'il y a ces propriétés-là au niveau de la dureté et du module d'Young, et il l'a renforcé par du graphène en faisant des ancrages covalents entre le graphène et le MOF, parce qu'un graphène, allez voir le cours que j'ai fait sur les graphènes, il y a N graphènes possibles, et un graphène, c'est très facile de le carboxylater en surface. Donc ça veut dire qu'on peut se servir du graphène comme de point de nucléation pour créer le MOF. Et à ce moment-là, on accroche finalement les feuillets de graphène avec le MOF. Évidemment, si on veut avoir un matériau qui a l'essentiel des propriétés du MOF et récupéré les propriétés mécaniques du graphène, il faut des taux raisonnables. C'est ce qu'il a fait. Vous voyez, ici, bon, ça c'est un dessin, je dirais, d'artiste, hein, mais et donc les mesures ont été faites par nano-indentation. Et ici, ce qu'il montre, en fait, c'est les évolutions du module Young et de la dureté, en rouge ici, module Young et dureté, en fonction, finalement, du taux de graphène. Ce qui veut dire qu'il augmente de façon très conséquente pour des taux de graphène qui sont de l'ordre de 3% en poids. 3-4%, c'est-à-dire c'est très peu. Et donc ça, c'est aussi, c'est dû à deux choses. Je vous dis, le fait d'avoir ajusté l'ancrage sur le feuillet de graphène en utilisant finalement des carboxyles sur le graphène comme point de nucléation pour le MOF. Voilà. Et donc au niveau, par exemple, des propriétés d'absorption ici, vous avez le MOF au magnésium de départ, et même, je dirais, il a augmenté finalement les propriétés d'absorption du composite. On gagne sur la mécanique et on gagne également sur l'absorption, tout en restant raisonnable sur les taux de charge que l'on rajoute, hein, le taux de graphène. Alors, j'ai fini mon exposé en vous rappelant que bon, ces matériaux hybrides peuvent être microporeux ou mésoporeux. Bien, un grand nombre sont microporeux, mais on peut également accéder à des mésoporosités. Au niveau des propriétés, ben, on a plein de possibilités, comme dans le cas de la plupart des matériaux poreux. En fait, c'est un peu une chimie à la carte. Il est clair que le pari, c'est les aspects de stabilité ou de non-stabilité en fonction de l'application. Ce que je remarque, c'est que dans les dernières années, il y a eu énormément de progrès dans ce sens, par rapport à des premiers travaux qui ont été faits dans les années 90. Il y a eu énormément de progrès entre, je dirais, 2003 et maintenant. Il y a eu beaucoup de travaux qui sont allés dans le sens d'un meilleur contrôle de la stabilité des systèmes. Donc, en fait, ces sites d'adsorption, la taille des fenêtres, tout ça, c'est réglable. Les sites d'adsorption sont accessibles, modifiables. Donc, on a une chimie qui est très versatile. Les aspects mécaniques, eh bien, on peut les améliorer en fonction de la nature des croisillons et des montants, mais également, on peut aller chercher des composites. Ça, c'était une option intéressante. Se pose toujours le problème, pour certains MOF, de la mise à l'échelle. Mais quand même, quand on voit ce que produit BASF, presque une tonne par jour, finalement, ce sont des choses qui sont raisonnables. Alors, je ne vous ai pas du tout parlé de la mise en forme des MOF, mais pour ceux que ça intéresse, il y a un très bel article de Christophe Voll, une revue, en fait, qui montre qu'au niveau des synthèses, que ce soit hydrothermale, sous-thermale, on peut faire des films, des dépôts 2D, tous ces systèmes-là, parce qu'on peut en faire des nanoparticules. Donc des colloïdes. À partir du moment où vous rentrez dans la chimie colloïdale, vous pouvez faire tous les types de dépôts, des films, etc. Et donc c'est aussi possible, je n'en parle pas parce que je ne veux pas être trop long, et donc vous allez trouver dans cet article à peu près toutes les méthodes de déposition qui sont utilisées. Ça peut être du spray, ça peut être en fonction finalement de la qualité des films, de ce qu'on veut obtenir. Voilà, et donc ma conclusion, ça sera ça pour aujourd'hui. En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. C'est simplement pour encourager ceux qui auraient envie de travailler dans le domaine des MOF. Voilà, je vous remercie pour votre attention.